Une journée avant d'avoir les clés, le propriétaire de cette entreprise-là nous appelle. Au téléphone, il dit « Je m'excuse, mais vous n'allez pas avoir les clés. » Je dis « Mais on a un contrat. C'est pas grave. Vous n'allez pas l'avoir. » On était en train de dealer avec un milliardaire. Ils sont dans leur propre monde. Il n'y a pas de loi.
Ouais.
Parce qu'ils savent « Tu veux aller en cours? Let's go. »
Bon, tu te souviens-tu de ton premier client?
Je me rappelle encore. Il travaillait dans une compagnie de peinture. Je me suis rendu là, je l'ai mesuré. Puis je me rappelle, j'étais stressé parce qu'on avait fait quelques tests. J'étais dans l'auto comme « Wow! »
Ah oui, c'est
la
sûr.
La première vente.
C'est même pas une question d'argent, c'est une question de première étape. Aviez-vous rêvé quand vous étiez jeune de faire des habits?
Non.
Jamais de la vie.
Non, je dis toujours, on rêve de faire plein de trucs, mais une des choses dans la business, c'est, oui, on parlait d'avoir une passion, mais ta passion doit pouvoir générer de l'argent.
Bienvenue dans le ring immobilier. Merci à nos commanditaires, Osvalet, Plancher 2000, Soutobli et Martin Ross, avec Jean-Sébastien Boiteau et Benoît Gagnon.
Un grand gentleman aujourd'hui, Ben.
Ouais, puis avoir su, je me serais mieux habillé, là.
Ouais.
Quand même, regarde la carte de mode qui est juste à côté de toi.
Ben, on a la chance d'être partenaire avec GS.
Et Jean-Jérémy.
Jean-Jérémy n'est pas là aujourd'hui. Ouais.
Jean-Jérémy, c'est... C'est mon frère, mon partenaire.
Ouais.
Il est un peu allergique. C'est le gars qui est en arrière. Il court.
Ouais.
Mais devant la caméra, c'est une différence.
Mais c'est ce qui fait une bonne équipe aussi.
Parce que, disons-le, t'es le plus vieux. Il laisse le grand frère.
Ça doit être ça.
Je suis content que tu viennes nous voir aujourd'hui parce que, oui, tu fais partie de l'aventure cette année de notre autre saison. On se connaît depuis quelques années maintenant. J'ai le privilège de travailler avec vous chez Soutobli depuis quelques années. Et j'avais jamais eu la chance dans ma vie d'avoir des vêtements sur mesure avant de vous rencontrer parce que je pensais que c'était inaccessible. Et au contraire, ça allait, puis on pourra en parler. Mais quelle belle histoire, parce que toi et ton frère, vous faisiez autre chose avant de vous lancer en affaires et de devenir donc des grands maîtres du sur-mesure.
Mm-hmm. Premièrement, au point de Benoît, depuis le début, puis Jérémy, on en parle souvent, c'est difficile quand on part une compagnie d'avoir des gens de notoriété, comme Benoît d'ailleurs.
Ah, ben t'es fin, mais...
Qui font confiance à une marque.
Et moi, je crois aux gens. Puis GS est comme ça aussi, on croit aux gens. Puis je pense que dès qu'on s'est rencontrés, j'ai vu la passion, j'ai vu la drive, j'ai vu le désir de vouloir bien faire les choses et de vous différencier dans un milieu qui n'est pas très, très connu et qui est difficile aussi.
C'est un très bon point. On s'est fait refuser des centaines de fois pour de l'argent au début. On faisait toutes sortes de tours, des présentations, essayer d'avoir de l'argent, des prêts. Puis souvent, on voyait ceux qui avaient des prêts, puis c'était toujours des histoires qu'ils avaient qui étaient extrêmement uniques. Puis j'ai rien contre ça, mais souvent, les gens, ils oublient qui va exécuter des idées, qui va aller exécuter une compagnie, comment aller faire avoir du succès.
Ouais.
Je pense que c'est une des choses avec Benoît. Depuis le début, il a toujours été avec nous. On a parti de quasiment rien, puis il a toujours été là.
Je vais toujours être là, moi, que vous me sacriez.
Ben, bravo, parce que de l'extérieur, c'est ça qu'on ressent dans votre relation.
Ouais.
Puis c'est ce qui, moi, m'a encouragé vraiment à, un, vous rencontrer, ton frère et toi, de voir qui vous étiez, parce que... Avant la compagnie, il y a les personnes, puis c'est ce qui est intéressant. Quand tu connectes avec les
tellement
gens qui sont là, ben après, s'en suit. Puis aujourd'hui, ben moi, j'ai la chance aussi d'être, je vais dire, en équipe avec vous autres. Puis on a plein de choses en vue.
Ça a toujours été beau et chic, mais on est rendu ailleurs.
On dirait que j'ai comme une pression de plus.
Pas du tout, ça te va très bien.
Mais parlant des gens... Avant le CRES, vous avez vraiment une belle histoire. Moi, j'ai eu la chance graduellement de connaître encore plus après notre dernière discussion. Vous êtes d'origine...
Mon père est chinois, mais il est né à l'île Maurice.
Ouais.
Alors, mon grand-père est allé à l'île Maurice. Il a eu 8 enfants. Ils sont tous sur l'île. Alors, ils parlent anglais, français, créole.
Ouais.
Moi, j'ai pu apprendre le créole aussi de l'île Maurice quand j'étais jeune. Ma mère est d'origine vietnamienne. Alors, elle était venue ici dans un moment extrêmement difficile parce que le Vietnam, dans quand elle étudiait ici, elle est allée étudier aux États-Unis. La guerre a parti au Vietnam.
Ouais.
Puis imaginez, les États-Unis étaient au Vietnam en train de faire une guerre avec les Vietnamiens du Nord. Elle venait du Sud, fait qu'elle a été vue comme une amie des États-Unis. C'était la seule étudiante aux États-Unis dans le temps. Elle avait beaucoup d'attention un peu de partout. Et puis là, pour rejoindre ses frères et sœurs, elle est venue ici étudier à Concordia. Et puis c'est là où est-ce qu'elle a rencontré mon père. Puis dans le temps, il faut s'imaginer, un Chinois, un Vietnamien, on sait, c'est comme des Anglais, des Français.
Ouais.
Ce sont des voisins, mais en même temps...
Deux réalités.
Exact. Ouais. Fait que dans le temps, avoir un couple qui vient de différentes origines comme ça, c'était rare. Et c'est pour ça que Jérémy et moi, deux frères... Deux noms québécois, Jean-Jérémy, c'est rare, mais Jean-Sébastien, très beau nom, d'ailleurs. C'est un nom c'est un nom complètement québécois.
Ouais.
Puis notre histoire a commencé de là.
Ça beau parce que tu as le prénom d'ici et le nom de famille d'origine.
Oui.
Et c'est toi, ça. Puis ça, je trouve ça beau.
Ouais. Ouais. Mais même à dire que notre nom Sierre, c'est si on le dit, oui, on a une idée que c'est un nom asiatique, mais en le lisant,
ouais.
C'est difficile des fois de savoir ça vient d'où. Puis dans ma vie, Jérémy et moi, on a toujours été dans des entrevues, au travail, des courriels, parce que des fois, on voit même pas les gens. On arrive toujours dans la salle, puis comme il est où, Jean-Sébastien?
Ah ouais, non, pour c'est vrai. Sûr. C'est
mais moi, non, hein? Pour vrai, ça arrive, ça.
Ouais,
non,
et, c'est puis c'est toujours, oui, Jean-Sébastien, mais c'est quoi ton
vrai nom?
Oui, c'est quoi ton vrai nom? Mais c'est ça, c'est légalement Jean-Sébastien.
Mais c'est tellement riche. D'avoir des parents avec deux cultures comme ça, c'est incroyable. C'est de partir avec deux histoires, en plus d'arriver au Québec. Donc Jean-Jérémy et toi, vous êtes nés au Québec.
On est nés au Québec, à Boucherville.
Ouais.
Là,
Jean-Sébastien de Boucherville. Effectivement, on ne s'attend pas.
C'est ça. Là, on est allé à La Prairie.
Ouais.
On a grandi là. Encore une fois, parce que mes parents viennent de pays où est-ce qu'il y a de la guerre, des choses comme ça, c'est toujours prendre la route safe.
Ouais.
Quand tu grandis, tu n'as pas vraiment d'option. On dit, JS, tu vas être soit ingénieur, tu vas être docteur ou tu vas être avocat.
Ouais.
Puis là, rendu...
C'est ça les choix. Là.
C'est ça les choix.
Ouais.
Jérémy, c'est un... vraiment un pas bon ingénieur. Il a étudié en ingénierie. Moi, j'étais passable. Et puis, oui.
Puis, si je ne me trompe pas, dans la culture vietnamienne, les études et la performance, c'est très important. Est-ce que je me trompe?
C'est ça. Il faut...
Ouais.
Puis, tu sais, en grandissant ici, puis voir la culture québécoise, où est-ce qu'on veut vraiment qu'on a une passion... Mm-hmm. Dans ce qu'on fait, je dirais que en venant ici, je comprends la situation. Mais souvent, les immigrants, ils ne vont pas comprendre que c'est une terre d'opportunités. Et puis, je faisais pas partie des clubs à l'école, mais je voulais jouer au hockey, je voulais faire des sports, je voulais faire plein de trucs comme mes amis. Puis mes parents, ils disaient toujours, si tu joues au hockey, comment est-ce que tu vas étudier? Il disait, tu fais ce que tu veux, mais quand c'est le temps d'étudier, il faut que tu étudies.
Ouais. Mais c'était ta réalité de jeune homme d'ici, d'enfant d'ici, tu sais.
Puis j'explique un peu. L'île Maurice, c'est une île où est-ce qu'il y a des Chinois puis beaucoup de gens qui viennent de l'Inde. Puis dans cette culture-là, pour aller étudier dans un autre pays ou aller dans un autre pays, il y a un ranking. C'est plus comme aujourd'hui où est-ce que c'est satisfaisant ou pas.
Ouais.
C'est ça ta note à l'école.
Non, c'est ça.
T'es ranké. Fait que tu vois la liste, je suis 200e. Je dois aller au 150e pour pouvoir sortir pour aller. Fait que la mentalité, tu peux pas aller jouer au hockey, faut que t'étudies.
Ouais.
Mais ce
on la
qui
comprend
amène,
mieux quand on sait ça, tu sais.
Ce qui amène une compétition constante. Si ton niveau, c'est des rangs, c'est une compétition qui est constante, là.
C'est une compétition qui est constante, mais en même temps, je dirais, je suis pas sûr que c'est la bonne façon de faire.
Ouais.
maintenant que, tu sais, moi, j'ai vécu
avec
au Québec.
Avec le recul, avec l'expérience.
Ce qui se passe, c'est que les gens vont... ils vont aller faire tomber les autres pour monter.
Exactement.
Puis, tu sais, collaborer, comme on le fait aujourd'hui, être en, les compétiteurs, il faut... Parce que c'est lui qui va enlever ta chance d'aller à l'opportunité.
Exact.
Mais je vais faire un aparté là-dessus. La copine de mon gars étudie en médecine et aujourd'hui encore, dans les classes de médecine, ils se disent pas les notes. C'est la compétition parce que c'est tellement contingenté, tellement difficile. Ouais. C'est le même, c'est un principe qui...
Je pense qu'il faut trouver la bonne balance.
Ouais.
Parce que je parle souvent avec ma femme de ça. J'ai dit, moi, là, quand j'étais... Je n'étais pas invité aux cérémonies à la fin de l'année. Je voulais savoir où est-ce que j'étais. Comment est-ce qu'on peut savoir si on fait bien, si on n'a pas de radar pour savoir exactement où est-ce qu'on est?
Ouais.
Fait que pour ne pas avoir de notes, je suis complètement contre ça.
Donc, je suis content d'entendre ça d'un sens parce que j'imagine que vis-à-vis tes deux beaux enfants, la compétition ou l'éducation sur la performance de rang doit être moindre de ce que tu as vécu.
C'est moins. Puis des fois,
prend par surprise.
C'est une balance. Parce que mon épouse est très... Elle n'aime pas la compétition entre les deux frères et sœurs. On les aime. Ils sont différents. On les aime pareil.
Ouais.
Des fois, j'aime en mettre un peu. Parce que...
De pression, tu veux dire?
Un peu de compétition.
Compétition.
Parce que je trouve que, tu sais, moi, je suis quelqu'un de compétitif. La société, ça prend des gens avec un caractère qui aiment la compétition.
Tu veux les préparer.
Oui. Parce que c'est très facile dans un petit environnement de famille ou d'école ou d'amis, si t'as pas de compétition, le jour où est-ce que tu vas te faire ramasser...
Tu vas être surpris, tu vas pas comment réagir.
Tu vas pas savoir quoi faire.
Exact.
T'as besoin de ça.
Ouais.
Puis encore plus, si tu veux être entrepreneur... Il n'y a pas les ressources humaines à te protéger. Il n'y a pas... Tu vas dealer avec des gens qui viennent d'autres pays ou est-ce que c'est pas grave, je vais aller prendre ton argent, je vais aller... Il n'y a pas de règles. Fait que tu dois pouvoir éduquer les enfants.
Leur donner les outils nécessaires aussi pour être préparé à toute éventualité comme ça. Là. Ouais.
Alors là, éducation, on se dirige en ingénierie. Le monde va dire comment ça se fait que on est rendu là, mais est-ce que l'ingénierie, c'était une passion pour vous ou c'était le chemin qu'il fallait?
J'ai détesté.
Ouais.
Honnêtement, je pense qu'on on apprend, par exemple, à être une infirmière.
Ouais.
On apprend des vrais trucs. Quand on apprend à être un docteur, on apprend des vrais trucs. En ingénierie, à McGill, en tout cas, c'est des équations, puis des équations, puis des équations qui ne s'appliquent pas en vraie vie. Fait que quand tu es dans le marché du travail, tu dis, j'ai appris pendant 4 ans un paquet d'affaires, puis je peux rien faire.
Ouais. Mais ça t'a donné un genre, par exemple?
Oui.
Ah, tu l'as, il est encore là, je le vois.
Puis tu me permets que je te challenge?
Oh!
Ça t'a permis de construire quelque chose de solide dans votre entreprise, par exemple?
Il y a une entrevue de Steve Jobs, le commencement address. Il a dit, tu sais, à la fin de la journée, tu sais pas comment les points vont se rejoindre. Puis c'est ça, en fait, que ça a fait. C'est que même si des fois, on y pense, puis j'ai dit, est-ce que j'ai perdu mon temps en étudiant l'ingénierie? Je me dis non, parce que ça a créé une expérience, ça nous a donné une façon de regarder les choses. Puis quand on est arrivé avec Suitably, on s'était dit, c'est fou. Comment est-ce qu'on peut avoir des habits dans le temps, on parle d'une dizaine d'années, qui se vendent à 2000, 3000. Puis on parle de tissu, on parle de coupe, on parle. Puis tu as un iPhone, un BlackBerry dans le temps, que tu as des milliers d'ingénieurs qui ont travaillé sur la technologie, puis ça se vend à 600$. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est où? C'est où le catch?
Les premières réflexions, c'était un peu dans cette voie-là?
Oui.
Ah oui?
Je voulais m'habiller bien.
Mais parce que tu étais dans le domaine des télécommunications, justement.
Je voulais m'habiller bien. Fait que j'ai passé une dizaine d'années en Amérique latine comme ingénieur. Ça, j'ai adoré.
Côté... Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as fait comme, comme run?
Moi, j'étais un intégrateur de système. Fait qu'à chaque deux semaines, j'étais dans une nouvelle ville. Imaginez, 23, 24 ans, j'ai pas de maison, j'ai pas de, de paiement. Je restais toujours chez mes parents, mais j'étais jamais là. J'étais en voyage.
Ouais.
Tout l'argent, c'est dans la poche. T'économises.
Ouais.
T'es jeune, t'as pas de copine. Chaque deux semaines, t'es dans un nouveau pays, nouvelle ville. T'as la chance de visiter. Le travail,
de voir,
d'expérimenter. Puis j'ai réalisé, les ingénieurs, normalement, c'est beaucoup de travail devant l'ordi. C'était pas moi. J'aimais la connexion, j'aimais les ventes. Fait que j'ai eu la chance d'être un consultant. Puis là, je m'habillais plus. Mais je me disais, je peux pas m'offrir 10 habits à 2 000 $. Ça marche pas. Fait qu'il doit y avoir un catch. C'est là que, quand on est allé au Vietnam... Les habits se faisaient faire en une, deux journées. Puis ça nous coûtait 100 $ peut-être.
C'est incroyable.
J'ai dit, tu sais, je dis pas qu'on devrait faire des habits à 100 $, mais il peut pas avoir une différence de 2 000 $ et puis 100 $ pour un produit qui est quand même assez semblable.
Est-ce que Jean-Jérémy était à la même place que toi dans ce temps-là? Est-ce qu'il réfléchissait aussi comme toi sur... Il y a peut-être une avenue le fun là.
Jérémy travaillait dans le temps. Il était trader. Fait qu'il était devenu un trader pour une grosse firme, d'ailleurs ici dans le 10-30. Et puis, quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais faire ça, parce que, tu sais, les Asiatiques, on est toujours un peu comme proches. C'est comme si on cherche toujours l'approbation.
Ouais.
Quelque chose qu'on peut en discuter plus tard, mais dans notre culture, tu cherches toujours l'approbation des parents. Que tu sois marié, ça reste dans notre esprit.
Ça passe par eux.
Puis j'ai dit, tu sais, maman, papa, tu sais, je vais partir ma compagnie. Puis pour eux, ils disent, imaginez, j'avais ma maîtrise dans le temps, j'étais ingénieur, j'avais une belle carrière. Ils disaient, comment tu vas tout laisser ça?
Ils comprenaient pas, là.
On a investi des années.
Oui, pour des gens qui ont vécu aussi des situations comme ils ont vécu, la sécurité...
Ma mère n'a pas travaillé. Elle a un diplôme. Elle est restée avec nous jusqu'à temps qu'on avait 16 ans.
Ouais.
Puis imagine le sacrifice. Je me rappelle encore... On peut en parler plus tard, mais il y avait tellement de sacrifices qu'ils ont fait. Puis pour dire à ce moment-là, tu vas tout quitter. On a tout investi pour faire ça. Tu prends pas Jérémy aussi. Il va continuer de travailler.
Okay, parce que tu as eu la pression du grand frère qui a amené son frère avec lui.
On aurait pu faire les deux en même temps, mais imaginez deux salaires que tu n'as plus.
Uh-huh.
Puis tu commences la compagnie. Fait que dans ce temps-là, on s'était dit, mieux vaut, tu sais, commencer. On avait économisé de l'argent parce qu'on voyageait pour le travail.
Ouais.
Là, on commence avec un. Jérémy continue de travailler, mais les week-ends, il était là avec moi à charrier les sacs de tissu l'hiver. J'ai plein d'histoires comme ça aussi à vous raconter, mais des tissus, tu sais, il n'y a pas de parking. Place Ville-Marie, le monsieur, il nous attend. On est un peu en retard, on courait.
Parce qu'il n'y avait pas de boutique, vous alliez chez les gens.
Exactement. Là.
On n'a pas eu de prêt. On avait fait plein de compétitions, on n'a pas gagné. Je pense parce qu'on était deuxième à d'autres compétiteurs qui avaient déjà commencé il y avait 1 ou 2 ans avant nous. Fait qu'on n'était plus une idée sexy. Par contre, on savait qu'on l'avait ici.
Ouais.
On l'avait ici. On a continué comme ça. On s'était dit, je ne veux pas faire comme les restaurants qui vont ouvrir. Ils n'ont même pas encore vendu une assiette. Puis ils ont déjà investi $500,000 dans des chaises, puis des belles lumières, puis des assiettes.
Est-ce que tu penses que si tu avais eu, à ce moment-là de ton histoire, de l'aide, subvention, tu aurais été où ce que tu es aujourd'hui?
Jamais. Jamais. On est rendu dans un monde aujourd'hui où est-ce que c'est tellement sexy d'aller dire « j'ai eu un round one de financement, j'ai un deuxième round de financement ». Puis ça devient que tu génères des millions de dollars en dépensant des millions de dollars. À la fin de la journée, tu regardes, tu dis, j'ai-tu vraiment fait de l'argent?
Ouais.
C'est facile de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre.
Ben oui. Il n'y a pas de risque. T'as pas peur, c'est pas à toi. Ouais.
Les gens, puis je connais la réponse, mais en parallèle à ça, les gens qui ont eu la plus grosse subvention dont on a discuté ensemble, sont plus dans le domaine.
Ils sont plus là. J'ai des compétiteurs. J'ai beaucoup de compétiteurs qui ont eu des subventions, que ce soit ici au Québec ou ailleurs au Canada, aux États-Unis, que c'est de l'argent qui vient de soi, de l'Asie, de la Chine ou bien du gouvernement québécois pendant les pandémies. Une fois que tu reçois cette injection d'argent-là, ton focus n'est plus là. Tu l'as, ton argent.
C'est facile.
Et tu ne focuses plus sur ton produit, sur ton client. Je les salue toujours, nos clients, pas toutes, j'aimerais, mais j'aimerais les saluer. On les connaît cas par cas. On a des meetings. Fait que le niveau de passion est encore là. Si moi, il faut encore aujourd'hui aller steamer un habit parce qu'il y a un client qui a besoin de quelque chose demain, je le fais. Puis on parle d'une compagnie aujourd'hui où est-ce qu'on est rendu à des milliers de commandes. Milliers par année. Puis, tu sais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne peut pas toutes les voir, mais on les connaît. On les connaît.
J'aimerais qu'on fasse la bonne transition pour qu'on comprenne bien l'histoire, parce que je trouve ça extraordinaire, la discussion qu'on a actuellement. Tu annonces à tes parents que tu vas le lancer. Tu commences déjà à ce moment-là, donc, à jouer et à apprendre sur le tissu, les coupes, trouver des fournisseurs. À quel point ça déboule rapidement? Parce que de décider de le faire et de le faire, à un moment donné, il y a un point tournant, puis ça commence là, là.
Ça n'a pas déboulé rapidement. C'était tough. C'était vraiment tough au début. Puis Jérémy, c'est quelqu'un d'un peu plus analytique que moi.
Ouais.
Moi, j'aimais vendre. Moi, c'était, je veux mon produit sur quelqu'un. Je veux vendre. Lui, il est toujours, OK, les dollars, les sous, où est-ce qu'on en est? Puis on réalisait à ce moment-là, parce qu'il faut se rappeler, on n'avait pas de bureau. On a commencé dans l'auto. Je faisais mes trucs dans la chambre de mon condo dans le Vieux-Port. On avait des soutes là, on les préparait. On allait, tu sais, chez les gens. Puis il faut imaginer...
Attends, mais je veux juste comprendre. C'est toi qui faisais les soutes?
Non.
Non,
Okay. Oui, fait que dans le temps, fait que notre opération a complètement changé d'il y a 8 ans. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en contrôle de faire les habits, puis faire les retouches, les assembler et ainsi de suite. Puis on a incorporé la technologie. Mais dans le temps, on faisait faire au Vietnam, puis on les faisait essayer ici. S'il y avait des altérations à faire, on travaillait avec des troisièmes, des couturières.
Ouais.
Dans le temps, vous pouvez imaginer, on chargeait environ 450 pour un suit, même 400. Et puis, on allait, disons, d'un bord de l'île à l'autre à mesurer, puis j'avais une collection de tissus comme ça.
Ouais. Le choix, c'était ça.
C'est ça. Puis une fois, je me rappelle, on est arrivé chez quelqu'un, il dit, je cherche du Bourgogne. Dans le temps, je dois utiliser des tissus qui sont communs, bleu, noir, gris. Ouais. Je dis, j'ai pas de Bourgogne. Je suis parti.
Ton premier client? Tu te souviens-tu de ton premier client?
Oui. Je me rappelle encore. Il était venu chez moi se faire mesurer. Puis on a fait... Non, il travaillait dans une compagnie de peinture. Je me suis rendu là, je l'ai mesuré. J'avais quelques dizaines d'options. Il a choisi un suit gris. Puis je me rappelle, j'étais stressé parce qu'on avait fait quelques tests. Puis je savais pas. C'est le stress de pas savoir si quelque chose va fitter. Puis je me rappelle, il a essayé, il fitait. J'étais dans l'auto comme wow!
Ah ouais, c'est
la
sûr.
Première vente.
C'est même pas une question d'argent, c'est une question de première étape.
Ouais. Puis rappelle-toi ce que tu disais tantôt aussi quand il a dit, moi je veux voir mon produit sur quelqu'un. Tu l'avais, ton quelqu'un, là.
Exact. Mais il ne savait pas qui était mon premier client. Parce que tu ne peux pas. Tu peux pas dire mon premier client.
Comment tu es allé le chercher?
On était toujours fort dans les réseaux sociaux. Notre Instagram était toujours fort. Si vous allez dans notre Instagram dans les débuts, vous allez voir une petite différence.
OK. C'est le fun. Vous l'avez gardé.
Oui, parce que j'aime que les gens puissent savoir d'où on a commencé.
De voir l'évolution.
C'était tough parce que... On volait des photos, OK? Puis il faut faire ce qu'il faut faire.
Être créatif.
Ouais.
On voyait des photos qu'on aimait du suit. Est-ce qu'on a ce tissu-là? C'est-tu assez semblable? Oui. On le poste. Puis on faisait ça au début parce que, imaginez, on est dans le monde du sur-mesure. Alors, pour avoir des images, aujourd'hui, il faut faire les habits. Ça coûte de l'argent.
Tu n'en avais pas avant. Là, t'en as.
Exact. Ouais. Là, on a plein d'opportunités de pouvoir shooter nos produits. Avant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on crée du contenu qui est intéressant. Fait qu'on se faisait contacter à travers nos réseaux sociaux.
Wow! 2 ans, 3 ans, aller chez les gens. après 5 ans ou 3 ans, la première acquisition ou le premier local, pas tellement grand, je pense.
Le premier local, c'était pas un local, c'était un coworking. On en avait marre. On se rendait chez... La pire histoire pour moi, puis je vais toujours m'en rappeler, j'avais mon premier enfant, jeune encore, vendredi soir, tempête de neige, client m'appelle, j'ai besoin d'un suit, away, go. On va, si j'ai la chance de faire une vente, on va le faire. Ouais. Puis avant, c'est une vente, c'est beaucoup. On le voulait. Tu fais ce que tu veux pour vendre. Je conduis dans la tempête, j'arrive là, je sors les tissus, ça prend... Dans le temps, on n'avait pas de vrai processus, ça prenait 1h30, 2 heures.
Ouais.
Choisir les tissus, prendre les mesures, on n'avait pas de système pour entrer les données, c'était tout fait à la main ou bien écrit. Puis, rendu à la fin, 2 heures d'avoir passé à faire les tissus, mesures, la femme du monsieur, elle nous dit, mais tu vas nous faire un spécial. Déjà que nos prix étaient à 400 $, ouais. Pas cher. Tu vas nous faire un prix spécial. Je dis, ben, je peux pas, tu sais, mon prix, c'est mon prix. Puis on voulait jamais négocier sur les prix parce que le moment que tu négocies sur le prix, tout le monde va négocier sur le prix.
Exact.
Je peux pas. Elle dit, ben, dans ce cas-là, on va pas le prendre. Fait que je me rappelle, je conduisais un vendredi soir, tempête de neige, regardez devant moi, il y avait personne dehors sur l'autoroute, dans ma voiture, puis j'étais comme... Est-ce que je peux pas continuer comme ça?
C'est incroyable, c'est toi. Ouais.
J'ai perdu un vendredi avec mon petit. C'est des moments précieux.
Qu'est-ce qui a changé après ce soir-là?
On a fait des processus d'appel. Qu'est-ce que vous recherchez? Pour vraiment valider le client. C'est-tu un vrai client? Je vais pas me rendre là-bas. Puis des fois, tu te rends là-bas, il veut changer son pantalon, on conduit, on revient, il aime pas ça, un peu plus long, un peu plus court. C'est pas une façon de faire. Ouais.
C'est un parallèle avec l'immobilier, tu sais.
Je peux imaginer.
Le courtier, l'acheteur qui fait visiter tout ça, puis finalement, il n'y a pas
de résultat au bout de la ligne.
Je comprends exactement.
Aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous avec nous, le site web a plein de questions. C'est quand ton événement, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu as une idée? Il y a un courriel, comment se préparer? Il y a des textos. Parce que les gens, comme un restaurant, ils se présentent pas.
Là, ils n'appellent pas avant pour dire qu'ils ne vont pas. C'est plate.
Là, ils ont un texto, confirmez votre présence. Texto le matin, voici votre rendez-vous. Fait que c'est beaucoup plus structuré. Mais pour revenir à la question, on s'était dit, ben, premièrement, si on veut vraiment avoir du succès, on ne peut pas copier Jérémy et moi puis conduire partout à travers Montréal puis faire de l'argent. On va se prendre un pied à terre. On a loué une table dans un coworking. Ça a marché pendant 6 mois. Là, dans le même édifice, on a loué littéralement un walk-in. On parle de 250 à 300 pieds. Pas plus grand que cette salle ici. Ouais.
Non, ici, c'est 2000 pieds.
Beaucoup plus grand que ça. Mais c'était petit. Puis je me rappelle le choc des gens parce que nos réseaux sociaux sont beaux. Puis notre site web était beau.
Avez toujours eu un beau brand. L'image, la qualité, tout ça, c'est...
Le fameux look and feel.
Le look and feel. On a même été interviewé par Radio-Canada dans le temps. Puis le crew était venu pour nous interviewer. Puis ils ne pouvaient pas rentrer dans notre salle. Ils ont dû se tenir dehors de la porte avec les caméras parce que c'était trop proche de nous pour filmer. Ouais. Fait que c'était une petite salle. On payait peut-être 100 $ par mois. Puis aujourd'hui, je regarde ça, c'est trop cher. Mais on ne savait pas. Puis on opérait de là. On a bougé dans une plus grande unité. Donc, c'est la première fois qu'on a rencontré Benoît.
Ouais. Je suis venu là la première fois. Mais déjà, vous aviez déjà installé l'image et le brand. On le sentait qu'on était chez vous, chez Suitably. On savait ce que c'était à ce moment-là. T'sais.
Sans vous connaître, toi, tu as décidé d'aller là.
Je les ai vus sur les réseaux sociaux. On s'est écrit. Puis ça a commencé comme ça, tout simplement. Moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. J'aime les entrepreneurs d'ici, tu le sais. Les gars, les filles qui ont des bonnes idées et tout ça. Et si je peux aider, je vais toujours le faire aussi. Puis je le disais tantôt d'entrée de jeu, j'avais jamais eu de vêtements sur mesure de toute ma vie. Et depuis qu'on s'est rencontrés, ça a changé ma façon de me vêtir parce que tu te sens tellement bien dans une chemise qui te fait bien, dans un habit qui te fait bien, dans un veston. Il y a plein de magasins qui vendent plein de beaux vestons, mais tu arrives puis la manche est trop longue, elle est parfaite pour quelqu'un d'autre. Bon, on est tous différents, on a des morphologies qui sont différentes. et d'arriver là et de vivre cette expérience-là. Et moi, comme beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment, Jean-Sébastien, tu vas être d'accord avec moi, je pensais que je n'avais pas les moyens de me faire faire des vêtements sur mesure parce qu'on pense que ça coûte une fortune. Mais vous en faites à des prix qui sont super compétitifs, avec une qualité extraordinaire, autant pour les gars que pour les filles, que pour les enfants. Parce qu'on voit, on voit des mariages des fois, puis le père puis le fils qui sont habillés pareil, tout ça. Je pense qu'on peut en parler de ça parce que c'est possible pour tous de vivre une expérience le fun chez vous où on va concevoir un habit pour une soirée, pour un événement ou juste pour le travail, par exemple.
La première idée que Jérémy et moi, on avait, c'était on fait juste des soutes noires. La première idée.
C'est juste ça.
On fait des soutes noires parce que tout le monde en a besoin.
Ouais.
Puis tu l'achètes sur le site web. Mais là, tu réalises, tu peux pas juste mettre un site web puis vendre. Ça marche pas.
Non.
Tu dois avoir un pied à terre, tu dois comment... niveau immobilier, avoir une présence, puis ouais, on va parler du futur de Suitably, mais avoir une présence à terre, c'est important. Puis on s'était dit, il faut que ça soit accessible. Fait que l'idée d'avoir juste des habits noirs, c'était vraiment pour faire en ce que j'achète un stock de tissu, c'est pas cher pour le client, ça ouais, me coûte pas cher. Là, on a commencé à incorporer la technologie. C'est là où est-ce que le point de l'ingénierie s'est revenu ouais, nous chercher.
Parce que vous avez développé une technologie.
Oui. Fait que quand on t'a vu pour la première fois... Ouais. On collectionnait encore des données.
Ouais.
Fait qu'on t'a scanné.
Uh-huh. Avait... C'était le premier?
Non, on commençait.
J'étais dans les premiers pas mal. Puis quand je suis arrivé, je les ai vus sortir en iPad.
Avec ta carrure, t'as déstabilisé
complètement.
Le marché.
Avec mes grosses épaules, quand je suis arrivé là, je les ai vus passer avec leur iPad. Puis ils tournaient autour de moi. Je suis comme, c'est qui ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Mais vous saviez exactement ce que vous faisiez parce que à ce moment-là, tu le disais, ils installaient leur base de données. Parce que quand j'y retourne maintenant, à moins d'un gros changement physique, ils savent comment m'habiller. On perd plus de temps avec ça.
Je l'ai vécu.
Ben oui.
On l'a vécu ensemble.
T'as amené ton gars, puis ton gars aimait ça aussi.
Exactement.
Là.
Puis je vais te laisser l'expliquer, puis je te donnerai mon feeling. Puis comment de client, ouais, mais...
Le côté technologie a changé notre business. D'ailleurs, on a été featured dans Forbes à cause de ça, des revues aux États-Unis, à travers le Canada, parce qu'on était les premiers à avoir installé une technologie d'intelligence artificielle. Je sais qu'aujourd'hui, on parle de ouais, ChatGPT puis l'intelligence artificielle, mais nous, on le faisait il y a 3-4 ans d'ici, ouais, avant que ça devienne la folie. Puis ça avait été fait parce qu'on a commencé à collectionner des données. J'ai dit, il y a quelqu'un dans le monde qui a le même bras que Benoît Gagnon. Il y a quelqu'un qui a les mêmes cuisses que JS.
Ouais.
Puis on a aussi, dans nos données, qu'est-ce qu'on avait dû altérer? C'est quoi les préférences de quelqu'un qui est 6 pieds, 300 livres? Comment est-ce qu'il aime son fit? Quelqu'un qui a 60 ans, il n'aime pas ça serré,
ouais,
il veut être relax.
Ouais.
Toutes ces données-là ont été mises ensemble, qui a fait en sorte qu'on a créé ce qu'on appelle le automatic sizing sur notre ouais, site web.
C'est une banque de données.
Une banque de données. Les gens, ils ne voulaient pas se faire mesurer à la maison pour nos clients aux États-Unis. Ils disaient, on a juste besoin de quelques infos de vous. Répondez ces questions-là. Notre algorithme va générer les patrons pour vous. Vous allez voir, on vous envoie ça, puis ça marche bien.
Que vous soyez capable de le faire comme ça à distance avec un client, je ne sais pas quoi, à Boston, qui a entendu parler de vous autres, qui répond à ces questions, et vous êtes capable, avec ce que vous avez créé comme technologie, de l'habiller à distance sans même le rencontrer.
Absolument.
C'est fou, là.
Le temps, c'est de l'argent. Les courtiers immobiliers manquent de temps. C'est là où c'est clair, parce que vous êtes vraiment occupé, puis vous avez une belle grosse clientèle qui est les mariages. Puis les courtiers immobiliers, là, c'est 7 jours sur 7.
Ouais.
Mais pour l'avoir vécu, puis dire, ah, faut que j'aille chercher un sou, faut que je. Mais c'est tellement apprécié le temps. Puis je l'ai fait. J'ai mis l'habit.
Ouais.
C'est pareil comme... C'est sur mesure.
Le fit est parfait. Moi, j'ai une petite histoire vite de ça parce que j'ai un ami, moi, qui achetait ses habits. On parle de PL. Qui était un bon ami à moi depuis longtemps. Qui faisait... Tu sais, un loyal. Qui faisait toujours sa business avec la même compagnie avant. Puis il aimait ça. Puis là, il recevait son sou. Puis là, il allait pour un premier essayage. Puis il retournait. Il revenait 2 semaines après. Puis il avait fait les altérations. Puis là, j'avais dit, arrête de faire ça. Tu perds du temps parce que c'est un gars d'affaires aussi. Il est en immobilier aussi. Et je lui disais, sincèrement, tu perds un temps précieux. Va voir les gars, une fois, tu y retourneras plus. Non, c'est impossible parce que habitué à la vieille façon de faire, classique et traditionnelle. Puis il aimait ça. il est allé les voir une fois, puis depuis ce temps-là, il a acheté combien d'habits? On les compte plus.
Piège, je vais pas dire combien d'habits t'as acheté, mais il en a acheté beaucoup.
Ouais. Dans le sens où maintenant, il a compris que, comme tu le disais, la notion de temps, le fameux taux horaire, ben dans son cas, à lui, ça l'a beaucoup servi. Donc, ouais. C'est ce que vous offrez comme service. T'sais.
C'est un peu... C'est les gens veulent... Puis dans notre industrie de suits, d'habits, les gens, ils pensent qu'un client veut venir prendre son whisky pendant 2 heures. Les gens n'ont plus le temps pour ça. Ouais. Dans le monde du Amazon, les gens, ils veulent quelque chose de vite. C'est pour ça qu'une fois qu'on a vos profils, vos mesures, même j'ai beaucoup de clients... qui vont acheter en ligne après. Votre profil est fait.
Ouais.
Vous pouvez même faire des designs sur notre outil de dessinateur. Si vous aimez un modèle qui est déjà là, vous l'achetez. Le profil est déjà là.
Tu vois quelque chose sur Instagram, une photo passée d'un acteur connu avec un soupe qui te fait triper.
Ou Benoît Gagnon qui...
qui est habillé par soupe d'oubli.
Oui, c'est ça.
Non, mais
c'est ça.
On a eu un paquet de gens qui voulaient exactement les options de Benoît Gagnon.
Le même habit.
Exactement.
Parce que j'étais bien conseillé avec.
Jusqu'à la doublure. Pas le monogramme à l'intérieur.
Merci.
Là. Pas le monogramme.
C'est personnalisé.
Nathalie. OK.
Ça, c'est mais... à moi, ça.
On veut pas de chicane.
Parce qu'on peut faire... tu peux nommer ton habit. Chacun de mes habits a son nom. Fait que c'est pour ça qu'il y en a un.
Je l'ai fait, moi aussi.
Toi aussi. Et voilà.
J'ai eu la chance de le faire.
Et voilà.
Mais c'est un secret.
Ah, ben ça, ça reste à l'intérieur.
C'est pour ça que c'est à l'intérieur.
À l'intérieur, ici, ouais. Comme ça.
Ça fait que ça rend l'expérience vite, ouais. Et facile. La moyenne de temps que notre client va venir chez nous pour se faire mesurer, quand il veut se faire mesurer, c'est environ 45 minutes. Fait que nous, on track toutes ces données-là.
Un premier rendez-vous, mettons. Là.
Oui.
Ouais, 45 minutes, puis après,
mesure, choix. On est des ingénieurs.
Ouais.
Fait qu'on track les minutes. On veut savoir comment est-ce qu'on optimise ça, parce que si ça prend 2 heures versus 1 heure,
donc
ça sert la moitié de clients.
Donc, ça a servi le 4 ans d'études.
Oui.
Ça a servi.
Je regarde mes parents, je dis...
C'est ça, je me l'avais dit, t'es pas dit. Tu vois, mon gars.
Je te l'avais dit.
C'est important de mentionner, vous faites les femmes aussi.
On fait les femmes. On voulait pas le faire au début, puis pour la simple raison que on se disait, si on va développer la technologie, on veut vraiment être bien dans un secteur avant de...
Spécialiser.
Je pense que beaucoup d'entrepreneurs passent trop de temps à faire trop,
ouais.
Sans vraiment avoir spécialisé dans un domaine.
Exact.
Pourquoi faire hommes, femmes, enfants, cravates, souliers, toutes sortes d'affaires?
Si tu n'en contrôles pas et tu n'en maîtrises pas un.
Ouais.
Ouais.
Imagine que tu commences à être hyper bon dans la confection pour les hommes. Puis là, tu prends le risque de faire les femmes, puis tout d'un coup, tu as 50 reviews de 1 étoile parce que tu as servi 50 femmes versus 1000 hommes qui sont contents.
Ouais.
Parce que les gens, ils vont écrire des reviews négatives plus que positives parce que c'est émotionnel, c'est passionnant.
C'est facile d'être méchant aussi.
C'est facile d'être méchant. C'est facile aussi, tu sais, de faire cette erreur-là, de trop vouloir en faire. Et là, on a beaucoup fait de tests avec nos stylistes qui sont principalement des femmes. On reçoit beaucoup d'applications de femmes. On aimerait avoir plus d'applications d'hommes pour le stylisme. mais là, on a beaucoup appris. Et puis, c'est là où est-ce qu'on a vraiment dit... On va lancer les femmes. On a eu des vidéos de TikTok qui ont 1,5, 1,1 million, puis c'est des habits de femmes.
Ah
on
oui,
s'est
hein?
dit, il y a un vrai marché pour ça.
Vraiment. Niche. Vraiment. Ouais. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de femmes qui portent les habits.
Ouais.
Tout ça, ça vient aussi avec un défi pour la santé, pour le temps, pour l'énergie. Je pense que il y a eu des défis pour toi là-dessus aussi.
Absolument. Il y a eu beaucoup, beaucoup de défis au niveau de la compagnie. Je vous dirais même avec notre expansion aujourd'hui, on va parler d'immobilier, mais une des plus grosses, au niveau du mal de tête que ça nous a donné, ça s'est passé il y a quelques mois. On est en pleine expansion. On va être ici dans le 10-30. On va bouger notre succursale à Montréal dans un emplacement plus grand.
Donc, il y aura 2 points de chute où on va pouvoir venir vous rencontrer.
Exact.
Pour une première visite, consultation.
Exact. Pour nos clients qui nous regardent, pour les gens qui nous regardent maintenant, imaginez, on opère d'un 4e étage dans un édifice dans le Vieux-Port en ce moment.
Ouais.
Et puis on génère beaucoup, beaucoup de clients en ce moment. Mais ça, on n'a même pas un pignon sur rue.
Okay, mais ça, c'est un beau défi.
C'est un beau défi.
Ça, c'est un beau défi. Puis merci de le mentionner. Mais comme entrepreneur, comme personne, je pense que, tu sais, on commence à t'entendre et à comprendre que de partir de chez eux, aller voir les clients, tout ça, ça gruge une énergie, puis t'en as subi les conséquences. Si t'es à l'aise d'en parler, JS, au niveau travail et énergie, tout ça.
C'est tough. On travaille beaucoup, ouais. beaucoup les premières années. Tout on levait beaucoup de tissus, de habits. Je me rappelle, je courais dans la rue en hiver avec 4 sous dans chaque main.
Côté,
puis... C'est lourd, c'est tough psychologiquement sur l'esprit et puis aussi financièrement au début. Ouais. Parce que avant que Jérémy arrive à temps plein, je pense pas qu'on faisait vraiment de l'argent. On faisait pas vraiment de profit.
Ouais.
Puis c'est là où est-ce qu'il a commencé à regarder nos chiffres, puis il a dit, oui, nos suits sont dehors, puis les gens, ils les portent, puis c'est bon pour notre marque.
Sauf que,
est-ce qu'on fait vraiment de l'argent? Est-ce qu'on fait vraiment de l'argent? Fait qu'il y avait toujours... Puis là, la pandémie est arrivée aussi, ce qui a été difficile pour nous psychologiquement, parce qu'on pouvait pas opérer, même si on voulait.
Ouais.
Tu veux vendre, mais il y a quelqu'un qui dit, non, tu ouvres pas. Ouais. Tu restes fermé.
C'est tough.
C'est là où est-ce que notre entreprise en ligne a parti. Fait qu'il fallait s'adapter.
Ouais. Vous avez réagi à ce moment-là.
Ouais. Ouais. C'était difficile, mais aujourd'hui, on regarde puis on dit la pandémie a été bonne pour nous parce que ça a aussi aidé à éliminer ceux qui n'auraient jamais dû être là dans notre industrie. Ouais. C'était difficile de cette façon-là. Puis notre dernier enjeu qui a été probablement le plus tough pour moi, Jérémy, c'est... Quand on voulait déménager à Montréal, on avait signé un bail. Puis je ne veux pas mentionner le nom, mais ils sont connus à Montréal pour faire des trucs comme ça. On aurait dû écouter ce que les gens nous disaient, surtout...
Vous êtes tombé en amour avec un local?
C'était un local sublime.
Ouais.
Vraiment sublime.
Qu'est-ce qui t'est arrivé, sans rentrer dans tous les détails, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que vous avez trouvé donc un beau spot. Et dans ta business, on le sait... Le point de chute, là, l'emplacement, le local, c'est tellement important. Là.
On s'était dit, finalement, on va être pignon sur rue. Pour la première fois, on va faire la décision de faire un big move.
Ouais.
On avait signé, fait que c'était quelques mois de négociation, signé le bail. Une journée avant d'avoir les clés, le propriétaire de cette entreprise-là, qui est reconnu pour être en étant un peu fou, il nous appelle, téléphone, il dit « Je m'excuse, mais vous n'allez pas avoir les clés. » Une journée.
Une journée.
Tu as des contrats signés avec tes contracteurs généraux. Ouais. Les gens sont prêts à travailler parce qu'on investit.
À prendre possession du local puis de le transformer pour lancer le magasin. Là.
Un jour avant ça, tu reçois l'appel. « Non, mais vous n'allez pas l'avoir. » Je dis « Mais on a un contrat. Pas grave. Vous n'allez pas l'avoir. » On apprend quelques semaines plus tard que monsieur essaye de vendre son édifice, puis acheteur potentiel veut un édifice sans locataire parce qu'il veut soit avoir d'autres locataires ou bien l'utiliser lui-même. Et c'était stressant parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis nous, on a des contracteurs généraux sur le côté qui sont prêts à partir. Ils ont des dépôts, ils sont prêts.
Et l'immobilier, c'est pas votre business, donc vous apprenez sur le tas à ce moment-là. Là.
Exact. Fait que ça fait. On était toujours. Avec l'idée, est-ce qu'on veut acheter un édifice commercial ou bien on veut louer? On n'est pas contre acheter dans le futur, mais on s'était dit, on est dans l'industrie des habits, pas l'immobilier. Puis on en a appris beaucoup avec cette expérience-là dans l'immobilier, puis peut-être qu'on va aller dans cette direction dans le futur. Mais reste qu'on était pris avec de l'argent. Non seulement on avait donné un dépôt pour cette nouvelle place, qui ne nous repayait pas, mais on n'avait pas de clé. Puis pendant plusieurs semaines, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis on était en train de dealer avec un milliardaire. Si vous regardez le show Succession, ils sont dans leur propre monde. Il n'y a pas de loi.
Ouais.
Parce qu'ils savent.
Tu
veux aller en cours? Let's go.
Let's go.
Puis il a de l'argent pour faire cuire pendant des mois. Ils ont un département spécial.
Ouais, alors que vous, non.
Exact. Ouais. Puis nous, on se dit, est-ce qu'on veut perdre notre tête à essayer d'affronter monsieur ici?
Ouais.
Longue histoire courte, finalement, on a réussi à avoir pouvoir sortir de ce contrat-là.
C'est quand même paradoxal que tu dises, on a réussi à se sortir quand c'est lui qui ne vous laisse pas rentrer.
C'est fou, hein? Ouais.
On s'était dit, des fois, les choses arrivent pour une raison ou une autre.
Il n'y a rien qui arrive pour rien.
Imaginez.
La bonne nouvelle maintenant, c'est qu'il y a un nouvel emplacement à Montréal et il va en avoir un aussi sur la rive sud de Montréal.
Exact. Je suis excité d'en parler. Je voulais utiliser justement cette plateforme-là pour pouvoir vraiment discuter ou parler de ça, mais on est fiers.
As-tu quoi nous annoncer aujourd'hui, là?
Oui.
Vas-y donc voir. Ben, regarde. Je le sens, là.
Suitably, notre entreprise à Montréal, on va bouger pour être pignon sur rue, littéralement à 50 mètres de la cathédrale dans le Vieux-Port.
Wow.
C'est beau. C'est grand. On va avoir environ 2400 pieds carrés pour servir les clients. Une expérience sublime. On parle d'un bar de tissu. Alors, on continue les rendez-vous, mais les gens vont pouvoir continuer de venir et puis voir les tissus, s'asseoir, avoir une belle expérience. On va avoir aussi un bureau pour gérer toutes les commandes, nos clients en ligne. Et puis, la deuxième annonce, puis je pense que c'est un secret qui est pas très secret, mais ça a été un beau défi. On va être ici dans le 10-30, juste en face du Zara, avec une deuxième boutique. Et puis, on est super fiers de...
J'ai vu tout d'un coup, la passion, c'est pris place.
Et parce que le gars qui nous le raconte avait son bureau dans sa voiture il y a une couple d'années.
Exactement.
Tu comprends? Moi, je trouve
Quelle
ça beau,
belle
cette
histoire
là.
De succès.
C'est... quand on y pense, là, ouais. Où est-ce qu'on était, puis où est-ce qu'on était aujourd'hui, c'est... Ça ne peut pas être fait tout seul. Puis je dis toujours, quand je pense à ça, je pense aux gens aussi qui nous ont aidés. Non seulement, tu sais, Ben, t'as été là, mais nos familles.
Plein de gens autour, ben oui.
Tu sais, c'est pas facile. T'sais, ma femme, c'est une pharmacienne. Elle a marié un ingénieur.
qui fait des habits.
Mais, puis tout d'un coup, je vais dire, OK, ben je vais aller faire des habits. Le support d'un...
Aviez-vous rêvé quand vous étiez jeune de faire des habits?
Non.
Jamais de la vie.
Non, puis c'est je dis toujours... On rêve de faire plein de trucs, mais une des choses dans la business, c'est, oui, on parlait d'avoir une passion, mais ta passion doit pouvoir générer de l'argent. Parce que si ma passion, c'est des fourmis, ouais. Tu peux faire ce que tu veux avec des fourmis, mais tu vas être très triste le jour que tu ne peux pas faire tes paiements. Tu vas être avec tes fourmis à les élever, mais en même temps, tu ne fais pas d'argent.
Exact.
Il faut pouvoir choisir une idée qui va te faire de l'argent.
Mais ce qui est beau aussi, c'est que vous avez aussi réussi à vous servir de votre connaissance comme ingénieur pour l'intégrer dans une nouvelle aventure où normalement, on n'aurait pas associé les deux ensemble. Mais vous l'avez fait et ça marche. Ça, c'est vraiment cool, ça.
On s'était dit... c'est un autre exemple de où est-ce quelque chose qui ne marche pas va se retourner puis bénéficier. On avait fait une compétition avec la Chambre de commerce de Montréal. C'était une caravane, c'était une compétition d'entrepreneurs. Puis je me rappelle, cette journée-là, le commentaire que les gens nous disaient, c'est « on n'est pas assez innovateur pour pouvoir avoir un prêt ». Je me rappelle…
Le commentaire qu'on vous avait donné.
Ouais. Puis aujourd'hui, toutes les compagnies qui ont gagné sont plus là. Plus là. C'est correct, mais on était… éliminé, puis je me rappelle, on était une compagnie qui avait déjà des revenus solides, puis on ne nous a pas choisi parce qu'ils nous disaient « t'es pas assez innovateur ». Je suis quelqu'un de compétitif, j'ai un chip sur mon épaule, là, quand quelqu'un me critique, j'aime pas ça, mais en même temps, ça m'a fait penser, puis j'ai dit « faut qu'on puisse non seulement incorporer de la technologie pour être plus innovateur.
Les faire mentir aussi, leur prouver qu'on est capable de le faire.
Exact, j'adore.
Ah ouais, c'est ça.
J'adore prouver ceux qui pensent qu'on n'est pas capable de faire. Ouais. Puis on s'était dit, on va trouver une façon d'incorporer la technologie dans tout ça. Ouais. En même temps, le bénéfice, c'est que ça crée une belle histoire. Ouais. Parce que toute entreprise, si tu veux avoir du succès, tu as besoin d'une belle histoire.
Ouais.
Les médias ne vont pas vous chercher si vous n'avez pas une belle histoire.
Tellement.
C'est un défi travailler avec la famille et son frère. Est-ce que ça a été toujours sur une montée, un fleuve tranquille?
Toujours. C'est surprenant.
Vous avez une complicité qui est impressionnante, sincèrement. Là.
Effectivement. On est des meilleurs amis. On va se crier après. Nos employés, des fois, ils nous entendent dans le bureau fermé, c'est petit. On se crie après.
Puis quand vous criez, c'est en français?
Français, anglais.
Créole?
Créole.
Un peu en créole aussi.
Damien, je parle espagnol aussi. Non, mais il ne comprend pas. Fait quand je veux pas qu'il comprenne, je parle en espagnol. Mais non, c'est... on va avoir des discussions, on va se crier après, mais on a le même but.
Ouais.
Puis
la réussite de s'oublier.
C'est ça. Puis on a deux petites familles. J'aime sa fille autant qu'il aime mes enfants. À la fin de la journée, c'est les enfants qui vont bénéficier aussi.
Vous faites un peu pas mal pour eux autres aussi, à quelque part.
C'est comme un mariage. À la fin de la journée, il va toujours être... Mais c'est encore plus fort qu'un mariage parce que un mariage, tu divorces. Mais un frère, c'est un frère. Il reste ton frère.
J'ai envie de vous demander, tu sais, c'est quoi les plans pour le futur? Mais là, déjà, qu'il y a deux nouveaux magasins qui ouvrent dans les prochaines semaines. Déjà, ça, c'est gros. Mais tu vois ça d'oublier où dans 5 ans, dans 10 ans?
J'aimerais, premièrement, avoir une belle dominance au Québec. J'adore. Ayant voyagé, tu sais, dans beaucoup de pays, l'Ouest canadien, États-Unis, l'Amérique du Sud, Asie, le Québec, c'est spécial.
Ouais.
Vraiment. C'est son propre pays.
Ouais.
Sa propre culture. J'aime la façon dont le consommateur québécois achète. C'est pas comme... Nos clients en Ontario, ils veulent des faits. C'est combien, c'est quoi le prix, c'est quoi le poids,
ouais.
Merci, c'est bon.
Ouais.
Les Québécois, c'est un consommateur qui est non seulement, il veut être informé, mais c'est quelqu'un de passionné.
C'est ça, je me dis. C'est la passion qui...
Si on ressent pas quelque chose, là, puis on sait dans l'immobilier, il n'y a pas le feeling,
ouais,
quand on rentre dans une maison, on ne l'achète pas. Mais nos clients, surtout quand on a un produit sexy, ils doivent ressentir quelque chose de spécial. Puis nous, on est bons,
ouais,
à créer cette expérience-là.
Est-ce que Jean-Jérémy et toi, là, vous êtes au plus haut niveau, au niveau de la passion, où est-ce que vous êtes aujourd'hui?
C'est, on se crée toujours des nouveaux projets, alors... Oui, on aimerait avoir plusieurs boutiques au niveau de notre province. Je vous dirais qu'on est devenu un peu moins passionné pour nos clients, moins positifs. Je pense que souvent, puis c'est bizarre parce qu'on en parle toujours, mais puis c'est comme ça dans la vie. Le moment que tu ne fais pas confiance,
mm-hmm,
à la personne qui est en train de faire ton suit ou bien la personne qui te vend la maison ou qui te vend une voiture... C'est toujours des histoires horribles après.
Ouais.
Parce que les gens qui veulent trop contrôler la situation, je regarde toujours leurs habits à la fin, puis je me dis, s'ils nous auraient fait confiance,
ouais,
il n'y aurait pas ce problème maintenant.
Ouais.
Payez-nous, laissez-nous.
Donc, ce que j'entends, c'est que ça, c'est une partie de ta business qui est dure pour toi.
Il y a des clients chiants. Vraiment.
J'aime cette belle franchise.
Non, mais c'est dans tous les domaines,
on a tout ça.
Il y a des fraudeurs, il y a des clients qui vont venir acheter des habits, canceller leur carte de crédit par après.
Ben voyons donc.
Ils passent des heures avec nous, on leur fait quelque chose de tellement bien.
Ils établissent une confiance, mais ils savent très bien, eux, pourquoi ils sont là.
Après, ils vont appeler leur carte de crédit.
Arc.
Ouais. On va toujours les gagner parce que tout est documenté. Mais pour aller faire des choses comme ça,
rentable,
hein? Ça, en général, 99,9% de nos clients sont superbes.
Ouais. Donc
ils sont positifs, ils sont très gentils. Mais tu vas avoir une certaine partie de gens qui vont essayer de crosser. Puis c'est triste des fois de le voir. Mais s'ils vivent leur vie à vouloir crosser des gens,
ouais,
ça nous dit un peu de comment ils
sont heureux. C'est qui t'a aussi. Ouais, exactement.
Ben, en tout cas, j'aurais goût de te poser mille et une questions encore, mais même si cette petite partie-là vient vous chercher, je peux te dire que tu dégages de la passion quand tu parles de ton produit, de ta famille, de ton frère, de votre réussite, puis tu as raison d'être aussi fier que ça.
Ouais.
Vous réussissez à le partager avec vos clients quand on y va. Vous avez une fierté qui est sentie dans le magasin quand on regarde les produits, quand on essaye les produits. T'sais, vous avez une équipe qui vous back, mais ils sont toujours là quand
ils
même.
Sont là, les gars,
JS puis Jean-Jérémy, même s'il y a quelqu'un qui nous sert, pis ils veulent être sûrs qu'on est content.
Ouais. Merci d'avoir partagé l'histoire. Parce que quand tu connais l'histoire derrière le produit, il y a quelque chose de différent. Quand tu vas acheter du vin, tu connais l'histoire du producteur, du gars, de la fille qui est derrière, soudainement, tu as encore plus envie de faire affaire avec ces gens-là. Je pense que c'est la même chose avec Sotheby's. En tout cas, dans mon cas, moi, puis dans le tien maintenant, les gens vont avoir pris le temps maintenant de vous découvrir, de vous connaître, puis ça donne le goût, je pense, d'aller visiter. Les deux nouveaux magasins qui vont ouvrir bientôt, ça, c'est extraordinaire, puis bravo, vous ne l'avez pas volé.
On est super excités. C'est sûr, c'est plus de travail, des nouveaux défis,
ouais.
Mais on est contents, on est fiers. Puis merci à vous, vous avez une belle plateforme pour des compagnies comme nous, surtout au niveau du Québec, pour pouvoir nous promouvoir.
Ben moi, je suis vraiment fier, Benoît, aussi, ouais. Que vous soyez un de nos partenaires. C'est avec fierté qu'on fait équipe avec vous. Merci, JS. Un gros merci à Gigi qui n'est pas là aujourd'hui.
On va aller vous voir bientôt. Moi, j'ai hâte de voir les nouveaux magasins. Je suis tanné d'attendre.
On va faire des lancements, puis vous êtes là.
Good.
Merci beaucoup. Gentil, mon gars. Merci beaucoup.
Salut.
Merci à nos commanditaires. Osvalet. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière. Osvalet est votre partenaire de succès. Ils travaillent main dans la main avec les courtiers pour garantir que leur propriété captive l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retient l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché fait d'eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Plancher 2000, détaillant de couvre-plancher axés sur la qualité et le design, ils font de la rénovation résidentielle, construisent des maisons neuves, des tours à logement et du commercial léger. Les produits offerts, bois franc, bois d'ingénierie, céramique, comptoir, vinyle, plancher flottant, pierre décorative. Ils vendent, ils designent, ils installent et ils livrent. Toujours présents sur les réseaux sociaux et dans les émissions rénovation sur Canal Vie. Plancher 2000 ouvre un tout nouveau magasin, la salle d'eau, magasin de fine plomberie, vanité et accessoires qui ouvrira ses portes en septembre à Longueuil. Martin Ross est un expert en courtage hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre votre expérience hypothécaire transparente et gratifiante. Collaborer avec lui, c'est opter pour un conseiller compétent, déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète.